il s'en va vers Dieu. Ce n'est plus tard. Il pose le pied. Il prend une mèche, il se noue à la ceinture. Il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me lave les pieds? » Jésus répondit, « Ce que je veux faire, tu le sais. Tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Vous savez bien qu'il y a des limites, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se mit à table et le rouvrit. Comprenez-vous ce que je vais faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, avant de commencer cette homélie, je voudrais vous présenter le Père Olivier, qui a accepté, qui a voulu venir qu'on célébrait avec nous à cette messe importante. Je le remercie d'être là, de sa présence. Hein. On va partager la prière ensemble, qui est en fait la fête aussi des prêtres, et en même temps la fête de l'Eucharistie. Généralement, quand nous célébrons la messe, ou quand nous commentons les lectures du dimanche, c'est toujours l'Évangile qui porte la première place, qui demeure au cœur de la proclamation. Il me semble que dans la messe du jeudi saint, la deuxième lecture porte aussi une importance capitale. Là, une importance capitale parce que elle joue le rôle de l'Évangile en même temps que l'Évangile du jour. C'est comme si on avait une médaille avec deux faces. Je vais commencer avec la deuxième lecture parce que elle nous parle de l'institution de l'Eucharistie. D'ailleurs, dans le texte du Nouveau Testament, c'est le premier témoignage de l'institution de l'Eucharistie. Les Évangiles ont été écrits après la première épître de Paul aux Corinthiens. Donc, du point de vue historique, du point de vue ancienneté, le texte que nous avons entendu comme deuxième lecture, c'est le premier témoin qui nous parle du repas que Jésus a eu à la veille de sa mort. Pourquoi Paul est-il arrivé à parler de cet événement-là à la communauté de Corinthe? Eh bien, c'est parce qu'il y avait des désordres dans la communauté de Corinthe quand ils se réunissaient le dimanche pour célébrer l'Eucharistie. Alors, ils ont gardé la manière ancienne. On célébrait l'Eucharistie au cours des repas. Alors, chacun amenait son plat. C'est comme ce qu'on appelle le repas partagé, le potluck. Chacun amenait son repas. Alors, ensemble, on se mettait, on commençait à manger. Et ensuite, le prêtre, durant ce repas, ce potluck, il célébrait la messe. Il prenait le vin qui était là, le pain qui était apporté, et il célébrait la messe. Mais maintenant, ce que Paul a constaté dans la communauté de Corinthe, c'est que les gens de Corinthe commençaient à se faire des factions, à se diviser, à se mettre en groupe. Des gens qui se connaissaient entre eux se mettent là, des nantis entre eux, des plus pauvres entre eux. Et ainsi de suite. Il y avait comme division en pleine célébration eucharistique. Alors, Quand Paul entend ça, alors ça veut dire qu'il écrit cette lettre, il s'insurge. Il dit, c'est pas croyable ce que vous faites. C'est tout à fait l'opposé de ce que notre Seigneur a voulu faire. Moi, je me rappelle très bien ce que le Seigneur a voulu faire. Écoutez-moi ce qu'il a fait. La veille de sa mort, il a pris le pain. Il a dit, ceci est mon corps. Prenez-le, mangez-le. Il a pris la coupe. Il a donné. Il a dit, prenez et buvez, c'est mon sang. Chaque fois que vous faites cela, vous vous rappelez la mort de notre Seigneur. Parce que la célébration de la messe, parce que le don du pain, le don de la coupe, veulent dire le don de la vie de Jésus. C'est ce que nous faisons. Alors maintenant, alors que nous sommes réunis, comme les Corinthiens étaient réunis, ils partageaient, en fait, ils prolongeaient le don de la vie de Jésus au monde. Mais en donnant, en faisant cette, en exprimant ce don-là, ils étaient divisés. Alors pour eux, ils disent, c'est contradictoire. Mes amis, nous à Saint-Gabriel, dans notre recherche, dans notre désir de renouveau pastoral, nous avons dit que nous voulons avoir des célébrations priantes, des célébrations inspirantes, des célébrations engageantes. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est faire comme Paul. Revenir à la source. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a voulu faire ce jour-là? Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Alors, c'est à partir de cette source-là que nous pouvons nous renouveler, que nous pouvons célébrer convenablement. Tant qu'on vivra sur cette terre, on n'arrivait pas à célébrer à 100% ce que le Seigneur a voulu. Mais il faut toujours tendre vers le 100%. Voilà pourquoi il faut sans cesse se renouveler, faire de son mieux pour vivre l'Eucharistie. Moi, je me dis, la manière la plus simple pour comprendre l'Eucharistie, c'est reprendre seulement le geste de Jésus. Prenez et mangez, c'est mon corps. Prenez et buvez, c'est mon sang. Le corps, le sang, eh bien, c'est la vie. Alors, le Seigneur se donne, en fait. Il se met à notre disposition. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé, l'amour sacrifice, l'amour qui va jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à donner sa vie. Alors, le Seigneur, en fait, quand nous vivons l'Eucharistie, nous reprenons, nous rendons actuel cet amour du Christ pour chacun, chacune d'entre nous, cet amour incommensurable de Dieu pour chacun, chacune d'entre nous. Regardez bien, le Seigneur dit, faites cela en mémoire de moi. Il ne s'agit pas seulement de reprendre le rite, mais il faut reprendre le rite tel que le Seigneur l'a vécu, l'a célébré. Comment l'a-t-il fait? Le Seigneur, ce qu'il fait le jeudi saint, c'est l'expression de toute sa vie. Tu ne peux pas séparer la vie de Jésus avec l'Eucharistie, parce que durant toute la vie de notre Seigneur, il n'a fait que se donner aux personnes qui étaient là, il n'était qu'à la disposition de pauvres, il était tout le temps en train de rendre service, il était tout le temps en train d'aimer. Maintenant, le geste qu'il pose, prenez-moi, c'était une expression de ce qu'il vit tous les jours. En d'autres termes, si nous sommes appelés à faire comme lui, nous devons faire la même chose. Quand nous venons à la messe, à la célébration, en commençant par moi, il faudrait que ce que nous offrons, ceci est mon corps, eh bien, que ce soit expression de ce que nous vivons, qu'il n'y ait pas de séparation entre le don et notre vie. C'est contradictoire, comme disait Paul aux Corinthiens. La vie de se donner, l'élan d'aller vers l'autre et prendre la communion doit être expression de notre vie à l'extérieur. Ça, c'est la première chose. Maintenant, regardez ce qui se passe cette nuit-là. Jésus est à table et puis alors que le repas est prêt, il a pris le vin parce qu'il y a plusieurs coupes durant ce repas-là et il se lève de table. Il commence à laver les pieds de ses disciples, dit Jean. Mais alors là, il pose un geste inédit, dans le sens qu'un supérieur, un chef de groupe, un rabbi, un maître, ne pouvait pas, tu ne pouvais voir un maître, tu ne pouvais pas voir un maître qui pose ce geste-là au temps de Jésus, parce que c'est un geste d'esclavage, c'est un geste de service. Alors lui, il s'élève, il commence à laver le pied de ses disciples. À la fin, il dit une chose importante. Que, en fait, tu ne trouves nulle part à l'évangile d'une manière si claire, de but en blanc. Moi, là, vous m'appelez maître Seigneur. Vous avez raison. Je le suis. Si moi, le maître et le Seigneur. Je vous ai lavé les pieds. C'est que je vous ai donné un exemple. Alors, comme moi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Comme moi, je vous ai donné un exemple. Tu ne trouves pas ailleurs une phrase si claire. De notre Seigneur dit, je suis votre exemple, suivez-moi. En ce qui concerne le lavement des pieds, c'est ce qu'il nous dit. Nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Comme pour dire, nous avons la table eucharistique. Nous sortons de la table eucharistique et nous passons à la table de service. C'est ça notre vie. Nous allons bientôt prendre la communion et le sang du Christ. Et quand nous sortons de là, nous allons passer, aller à l'extérieur, commencer à passer à la table de service. C'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Et dans ce sens de servir, le Seigneur qui nous demande de suivre son exemple, il faut se rappeler qu'il faut se mettre toujours aux pieds des plus petits, des plus pauvres, de ceux qui sont là pour le service. Voilà comment me semble qu'il faudrait retenir le souvenir que le Seigneur nous propose en cette nuit magnifique, en cette nuit pleine de signification. De toujours à toujours, l'Église a toujours eu une attention particulière, a toujours porté une attention particulière aux plus pauvres. Depuis le début. Et même quand le Seigneur Jésus a célébré la première messe, il y avait une collecte pour le pauvre. Le repas de Pâques, il y avait toujours une collecte pour le pauvre. Et déjà dans l'Église ancienne, quand les apôtres se réunissaient, ils pensaient toujours aux pauvres. Ça n'a pas de sens une communauté paroissiale comme la nôtre si nous vivons et qu'on n'a pas de préoccupations des pauvres. C'est à l'opposé de l'enseignement de Jésus. Parce que lui s'est toujours occupé des plus petits et des pauvres. Et moi, je suis content à Saint-Gabriel, comme je suis sûr dans d'autres paroisses aussi, nous avons un compte pour le pauvre. Quand il y a un don spécifique pour le pauvre, nous mettons. Et quand il y a des besoins qui se présentent dans la communauté pour le pauvre, eh bien, on va puiser dans ce compte-là pour aider les pauvres. D'où vient cet argent-là? De vous. La communauté doit porter le pauvre continuellement. Regardez, nous sommes en 258 à Rome. Alors, Saint-Laurent, qu'on connaît très bien. Ici, chez nous, on a le boulevard Saint-Laurent, on a le centre d'achat Saint-Laurent, on a le fleuve Saint-Laurent. Hein? Il faut savoir c'est qui Saint-Laurent, finalement. Alors, en 258, Saint-Laurent était diacre dans l'église de Rome. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il était intendant des biens de Rome, celui qui gardait les trésors, les finances, si vous voulez, de l'église de Rome. Alors les ennemis de l'église savaient que l'église avait quand même quelque chose. Ils sont partis arrêter Saint-Laurent. Montre-nous le trésor de l'église. Alors qu'on l'amenait vers le juge, à ce moment-là, les gens de la ville le suivaient parce qu'ils étaient attachés à Saint-Laurent. Arrivé chez le juge, avec une épée à la gorge, il dit « Donne-nous les biens de l'église, montre-le-nous, sinon on t'égorge. » Ah, vous cherchez les richesses de l'église? Il se retourne devant la foule, devant les pauvres, les estropiés, les aveugles. Voici la richesse de l'église, en montrant les pauvres de la ville. Mes amis, l'église n'a pas de sens quand elle tourne son dos aux pauvres. L'église devient crédible quand elle prend la défense des pauvres, quand elle se met au service de la justice, quand elle se met au service de l'amour authentique. À ce moment-là, alors, l'Esprit du Seigneur commence à travailler dans le cœur de Jean. Regardez, le pape nous étonne. Pour la cinquième fois, en célébrant la messe de ce soir, lavement des pieds, il est parti encore une fois en prison, dans une des prisons de Rome. Et là, pour laver les pieds de 12 prisonniers. Parce que, en fait, quand on réfléchit, comme je l'ai dit, depuis les églises anciennes, l'Eucharistie n'est pas séparée aux tout petits. Qui peut penser aujourd'hui, alors que nous célébrons, penser aux prisonniers? En tout cas, moi, je ne pensais pas. Ça fait longtemps qu'on célèbre et que lui, depuis qu'il est devenu évêque de Rome, je me rappelle la première année, il a fait un tollé. Qu'est-ce que c'est ça, l'évêque de Rome? Le jour de jeudi saint, à la place de venir dire la messe à la basilique, il va dire la messe dans la prison. C'est quoi ça, ces affaires-là? Alors que, en fait, le message chrétien est un message d'abord adressé aux pauvres. Chaque âme, chaque chrétien doit avoir une place réservé une place de choix dans son cœur pour le pauvre. Je me rappellerai toujours cet exemple du père dominicain, hein, Radcliffe, un de Londres, un Oblat, pas Oblat, mais plutôt un dominicain de Londres. Alors lui disait, une fois, un homme qui avait le sida, la période où nous avions tous peur du sida. Alors voici qu'un homme meurt de sida. Et puis, alors que le père allait le voir de temps en temps, était leur aumônier, le citoyen me dit, père, quand je vais mourir, peut-on me faire la messe à la cathédrale de Londres, la cathédrale catholique? Il dit, écoute, je vais essayer d'avoir la permission. Il a dû travailler, on n'a pas donné la permission d'un coup. Oui, on va dire la messe pour un citoyen à la cathédrale. Et puis il a obtenu. Et ce jour-là, dit-il, quand il a célébré la messe du Sidéen, qui était au milieu, avec son cercueil au milieu de la cathédrale, où il y avait très peu de gens, seulement les pauvres, quelques Sidéens de la ville, il dit ce jour-là, il s'est dit, il a eu comme une révélation, il s'est dit, non, c'est ça l'église de Dieu, avec les pauvres dans le milieu, avec le pauvre au centre, c'est ça l'église de Dieu. Et Jean Vanier de nous dire, en fait, la pauvreté, les gens qui sont pauvres, les gens qui sont simples, sont vulnérables. Alors, ils viennent nous chercher, ils viennent créer quelque chose en nous, ils viennent nous puiser, parce qu'ils viennent réclamer notre amour, ils viennent réclamer notre service, ils viennent réclamer notre patience, les gens qui sont vulnérables. Et nous, aujourd'hui, en parlant de la simplicité, de la pauvreté, nous ne devons pas oublier ce qu'on appelle la pauvreté spirituelle. Les gens qui sont malades, hein, et cela, c'est d'une manière intellectuelle, mentalement. Les enfants qui sont autistes, de plus en plus il y en a. Ce sont des pauvres qui ont besoin de notre attention. Les personnes qui souffrent de dépression, ce sont des gens qui ont besoin de notre support. Les personnes qui font la bipolarité, ce sont des gens qui ont besoin de notre secours. Alors, ce sont des pauvres d'aujourd'hui et nous sommes appelés à être attentifs à tout ce monde-là dans nos familles, dans nos milieux de vie, dans nos paroisses, dans nos communautés. En priant aujourd'hui, nous allons simplement demander une chose au Seigneur. Quand nous sortons de cette table-là, qu'on passe aux tables du service pour les plus démunis, les plus pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Je termine avec ceci. On a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris. Vous l'avez sans doute lu. On parle du père Jean-Claude, Jean-Marc plutôt, Jean-Marc Fournier. Il est aumônier de pompiers de Paris. Alors, quand l'église a pris feu, on la cherchait, on ne le trouvait pas, mais elle était en réunion. Finalement, il a vu la fumée, il a regardé son portable, on a cherché de le rejoindre. Vite, il part là-bas, il s'est dit, moi là, ce que je vais faire, je vais essayer de sauver les œuvres qui sont là depuis plus de 100 ans dans la cathédrale. Alors, il est parti avec l'équipe de pompiers, ce qu'ils ont fait. Mais dans son cœur, il s'était dit, je vais sauver ces choses-là, puis je sauverai aussi le Saint-Sacrement. Il est parti avec les pompiers, ils sont entrés dans l'église et ils ont sauvé, ils ont pu extirper des feux, des flammes, ils ont extirpé, eh bien, un bon nombre d'œuvres d'art. Arrivé à l'extérieur, il a dit, oh, il faut le Saint-Sacrement, seul. Il est rentré dans l'église Notre-Dame, il est parti dans ce qu'on appelle la chapelle de Saint-Georges, là où il y avait le Saint-Sacrement, il a pris le Saint-Sacrement, il est sorti. Il a empêché le Saint-Sacrement de brûler. Mes amis, on peut voir de la spéculation là-dessus. Moi, je me dis, l'église Notre-Dame de Paris est une église catholique. Et celui qui a fait cela, c'est un prêtre catholique. Il savait de quoi il s'agissait. Il a pensé que nous autres là, nous croyons en l'Eucharistie qu'on va bientôt célébrer, la présence du Seigneur. Et il a tout fait pour éviter que le sacrement ne puisse brûler. Ça, c'est simplement un appel à vous et à moi. Quel est notre sens de respect envers le Saint-Sacrement? Quelle est notre foi dans le Saint-Sacrement? Jusqu'où pouvons-nous aller pour le Saint-Sacrement? C'est pas une question. Moi, je me suis posé, j'ai dit, ça vient raffermir, ça vient nourrir notre foi dans le Saint-Sacrement, dans le sens de la présence du Seigneur. Comme vous savez, dans chaque église catholique, il y a toujours cette lumière qui se trouve à côté du tabernacle. Quand tu entres dans une église catholique, tu trouves la lanterne ici, qui dit que le Seigneur est présent. Toujours. Et ce que le père Jean-Marc Fournier nous rappelle aujourd'hui, c'est que dans nos églises, le Seigneur est bien vivant, est bien présent. Et comme on fait tout pour lui, on fera tout pour le pauvre, on fera tout pour le plus simple. Alors je conclue avec le refrain qu'a chanté Lise. J'aime beaucoup ces paroles de Paul. Il dit, le pain que nous rompons tous les jours à la messe, n'est-il pas communion au corps du Christ? Et la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ? Alors il continue, s'il n'y a qu'un seul pain et qu'il y a une seule coupe, et que nous sommes venus par milliers, nous sommes venus des origines différentes, nous sommes venus de coins différents, nous sommes venus de parties différentes de la ville, et si nous sommes ensemble, c'est que nous ne faisons que un dans le Seigneur. Amen.